Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con. On les consacre que leur sacré con.
Bonjour.
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 Créée par les Gilets jaunes, cette émission a évolué pour s'affirmer comme un espace de parole ouvert à tous citoyens et toutes citoyennes habitant sur notre territoire et ayant quelque chose à dire ou des initiatives à partager concernant notre vie commune, nos biens communs. Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent, ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications, pour une société plus juste, plus solidaire. Vous voulez réagir? Voici notre mail. paroledecitoyen@frequence7.net tout attaché, en minuscule. Nous lisons tous les mails que vous nous adressez. Aujourd'hui, nous sommes au grand complet avec moi-même, Anne, François, Monique et un observateur bienveillant. Au menu du jour, comme à notre habitude, une entrée, un plat de résistance et un dessert. En entrée, des citoyens en action sur notre territoire. Avec cette semaine, dans la rubrique « Il n'y a que moi que ça choque », une carte blanche de Anne. En plat de résistance, quand des citoyens ardéchois nous racontent Mayotte, suite et fin. Nous terminerons en solidarité avec le peuple maoré, victime à la fois du cyclone et des politiques publiques, en partageant avec vous une recette de cette île. Surtout, prévoyez papier et crayon. Bon appétit!
Alors pour commencer, ben voici l'entrée, donc avec quelques infos et événements citoyens sur le territoire. Et donc on va commencer par la mobilisation contre la guerre au Proche-Orient. Donc voilà, il y a 15 jours on vous parlait de Gaza et du cessez-le-feu qui venait d'être plus ou moins signé. Et on avait beaucoup d'interrogations et de doutes. Et effectivement, ben dans la vraie vie, loin des faux médias, eh bien nous avions raison d'être très prudents. Sous couvert d'un cessez-le-feu aujourd'hui à Gaza, eh bien Israël applique la même politique d'envahisseur génocidaire en Cisjordanie et refuse aussi de quitter le sud Liban en bombardant les habitants qui y reviennent. Donc la mobilisation est toujours d'actualité. On vous donne rendez-vous toujours les samedis matins à 11h à l'Agora d'Aubenas pour demander un cessez-le-feu durable, permanent et définitif dans tous les territoires palestiniens à Gaza, en Cisjordanie et à ailleurs.
Autre point citoyen sur notre territoire, nous avons appris une nouvelle menace, une menace de plus sur un service public à Aubenas. Lundi matin, à 11h30, le syndicat solidaire des impôts tenait une conférence de presse devant le centre des impôts d'Aubenas. Trois syndicalistes ont lu une déclaration. On comprend, de leurs déclarations, de leurs explications, qu'un service ferme à Aubenas, le service du pôle unifié de contrôle d'Aubenas du centre des impôts, que les élus locaux ne disent rien, sont sans réaction, que cette fermeture amène la mutation d'office de 7 personnes à temps plein, qu'en plus pour l'Ardèche ça crée un précédent pour bien d'autres services équivalents sur le territoire, et qui soupçonne aussi que ce soit le prélude du rapatriement de la trésorerie de Joyeuse à Aubenas. À suivre certainement dans d'autres émissions de Fréquence 7 dans les jours à venir. Et maintenant, s'il te plaît Sylvain, un peu de musique avec Pierre Perret.
La salle commune est pleine et le docteur regrette que pour 40 il n'y ait qu'un cabinet de toilette et que ces deux infirmières accablées de labeur qui sourient et qui gronde, mais ne compte pas les heures.
Alors cette chanson de Pierre Perret est là pour introduire une autre information qui concerne tous les habitants du territoire. C'est l'Assemblée Générale de l'Association des Usagers de l'Hôpital d'Aubenas. En effet, cette association, qui tiendra son Assemblée Générale jeudi 13 février à 18h30 à la Maison de Quartier de Pont d'Aubenas. Cette association regroupe des usagers de l'hôpital soucieux de son devenir et essayant d'agir pour son maintien, voire son développement, à hauteur des besoins de la population. Elle est par ailleurs membre de la Coordination nationale des associations d'usagers des hôpitaux publics. Pour faire connaissance avec l'association, vous êtes bien sûr invité à participer, à assister à cette Assemblée Générale, mais aussi, si vous le souhaitez, une distribution de tracts aura lieu aujourd'hui, jeudi 6 février à 14h, devant l'hôpital. C'est l'occasion de rencontrer ses membres, pour celles et ceux qui le souhaitent.
Alors maintenant, je voulais vous parler du carnaval des animaux à Saint-Pierre-de-Colombier qui va se tenir le dimanche 16 février. C'est l'association des Amis de la Bourge qui mène depuis de nombreuses années le combat contre le projet stupide et inutile de la basilique à Saint-Pierre-de-Colombier qui organise de nouveau ce carnaval. Donc il sera à partir de 14h, il y aura un défilé, un carmentran, du maquillage, des crêpes, une buvette, de la mangeaille au rendez-vous. Au-delà de l'aspect festif, d'animation du village, il s'agit aussi de récolter soutien et quelques sous pour payer les avocats dans ce combat long du pot de terre, les territoires et ses habitants, le territoire et ses habitants, contre le pot de fer, les millions de la fondation intégriste. Et maintenant, je laisse la carte blanche à Anne.
Alors, dans la rubrique « Il n'y a que moi que ça choque », en fait, j'avoue que, voilà, parfois, on est choqué de plein de choses qu'on entend, mais que la fatigue aidant, en fait, eh ben, elle passe à la trappe. Donc là, je vais rien vous servir sur un plateau, mais en revanche, j'avais envie de partager avec vous une réflexion qui est que, franchement, on est quand même inondé de choses extrêmement choquantes tous les jours, voilà, qu'on entend, qu'on voit, etc. Et donc, je me suis dit que pour la prochaine fois, en fait, j'allais avoir toujours un petit carnet avec moi, et qu'à chaque fois que j'entends un truc qui me choque, en fait, je vais noter sur ce carnet ce qui m'a choqué, et la source aussi de où je l'ai entendu. Et donc, je voulais partager avec vous, chers auditeurs de Fréquence 7, en fait, cette petite méthodologie, en fait, pour faire face à ce qui nous choque et avoir aussi peut-être un carnet à côté de solutions, d'ailleurs, par rapport à ce qui nous choque. Donc, si jamais, voilà, vous avez envie de jouer le jeu, eh ben, on peut se donner rendez-vous sur l'adresse mail de notre émission. Vous pouvez envoyer des choses qui vous ont choqué et comme ça, on peut faire une énorme marmite et tenter de... voilà, d'en parler ensemble et d'agrémenter un peu le pourquoi du comment. Et donc, eh ben, j'en profite pour vous redonner l'adresse mail qu'on vous donne à la fin. C'est paroledecitoyen@fréquence7.net.
Et donc, après ce petit tour de piste des actions citoyennes sur le territoire, on va attaquer notre plat de résistance pour la suite et la fin. On vous l'a promis, hein, c'est la fin de l'épisode sur Mayotte, des trois épisodes sur Mayotte que nous avons avec nos invités, François et Monique. Donc, ils viennent, on les en remercie parce qu'ils n'habitent pas tout à fait au Bonin, et ils viennent d'un peu loin pour nous raconter tout ce qu'ils savent et aider à réfléchir sur la situation de Mayotte. Lors des deux dernières émissions, François et Monique nous ont donc, qui ont, je le rappelle, vécu 7 ans à Mayotte, elle comme médecin et lui avec une entreprise de prestations informatiques. Nous avons essayé avec eux de comprendre la situation particulière de Mayotte. Comment se fait-il que c'est aujourd'hui un département français? Quelle est l'historique de cette affaire? Quelle est l'histoire des relations avec les Comores? Et notamment l'histoire des migrations entre Comores et Mayotte. Nous avons eu un aperçu notamment du système de santé sur place et puis aussi de la situation globale, de la vie quotidienne là-bas, des services, etc., indépendamment même du cyclone, du fonctionnement des choses, donc, qui explique en partie la situation après cyclone aussi. Aujourd'hui, on peut sans doute considérer qu'il y a l'urgence et préparer l'avenir. Donc c'est un peu le sujet de l'émission d'aujourd'hui, c'est essayer d'avoir des idées, des propositions, à partir des constats que nous faisons, quels sont les besoins. D'abord les besoins en urgence, et puis ensuite en deuxième partie, à plus long terme, qu'est-ce qu'on pense souhaitable pour ce territoire. Voilà. Alors, pour la partie des urgences, on a pu faire des constats déjà, on en a un peu parlé, puis vous en avez largement entendu parler partout. Donc, on a vu que 90% des infrastructures publiques ont été détruites par le cyclone. Je rappelle qu'on est quand même quasiment deux mois après le cyclone. Et alors, ça peut prêter à rire même, mais cet après-midi, le Sénat étudie un projet de loi d'urgence. D'accord ? Ça fait 2 mois que ça dure. Et le Sénat, il étudie, ça veut dire que ça va encore durer. Voilà. Donc ça ne sera plus une loi d'urgence, ça devient ridicule. Mais les besoins urgents, eux, ils restent sur le territoire. Et donc c'est de ça que nous allons parler, même si visiblement l'État français est d'une incurie totale sur le sujet. Donc que faire ? Voilà, la question fondamentale, elle est que faire aujourd'hui en urgence ? Quels sont les besoins ? François, Monique, à vous de nous dire ce que vous en pensez.
Alors, pour les besoins en urgence, je pense qu'il faut revenir à... la réalité de l'être humain qui a besoin, pour survivre, d'un couvert, de nourriture, d'eau, de services de santé et de services d'éducation. Et je pense que l'urgence, c'est d'offrir à tous les habitants, toutes les personnes qui vivent sur l'île de Mayotte, la possibilité d'accéder à ces besoins, à la couverture de ces besoins fondamentaux. Et les habitants de Mayotte ne sont pas que des Français, ce sont tous les gens qui sont actuellement présents sur l'île de Mayotte. Et tous nos efforts doivent porter sur le fait de couvrir ces besoins. La suite, c'est que la couverture des besoins d'urgence est indépendante de la façon dont il serait souhaitable de gérer la politique sociale et économique de l'île, ce dont François pourra nous parler un petit peu après.
Alors si on reste dans un premier temps donc sur l'urgence, ça veut dire que, par exemple, on entend dire qu'il faut, et je crois que c'est abordé dans le fameux projet de loi, et qu'ils le font déjà, empêcher la reconstruction par les gens de leur sorte de bidonville, hein, enfin voilà, pour se mettre à l'abri. Vous êtes d'accord avec moi que c'est inadmissible d'empêcher les gens de se mettre un toit sur la tête, et que dans cette situation-là, ben, si c'est un toit en tôle, ben, c'est un toit en tôle, mais c'est mieux que rien.
Tout à fait. Et dans le projet de loi qui est en discussion, il s'agirait d'interdire l'acquisition de tôles pour faire des toits ou pour faire des murs à toute personne qui n'aurait pas de papier d'identité prouvant sa nationalité française. C'est absolument scandaleux. Si les gens avaient attendu 2 mois pour avoir un toit sur la tête pendant la saison des pluies, ce serait une catastrophe. Donc, il y a énormément de gens qui ont bravé cette interdiction, qui était de reconstruire, de se mettre un toit sur la tête. Et il ne faut pas redétruire ces logements sous prétexte qu'ils ne sont pas aux normes. Les normes, c'est indépendant de la situation d'urgence et de la nécessité où les gens sont de se protéger de la pluie en particulier, et d'être protégés quand ils dorment, et de protéger leurs biens, même si ce sont des biens qui sont de faible valeur, comme un matelas pour mettre au sol ou 3 casseroles pour préparer à manger.
Je crois que la question se pose exactement de la même manière, par exemple pour l'accès à l'eau, puisque déjà avant, hein, il y avait des problèmes d'accès à l'eau, c'est clair, parce que je crois qu'on avait fait le constat qu'il n'y avait que 30% de la population qui avait vraiment accès à l'eau de façon normale, on va dire, et que pour les autres, bah, c'était soit le vol, soit les magouilles, enfin, etc. Et là, dans la situation actuelle, si pour tous les besoins vitaux, la condition, c'est d'être de nationalité française, ça veut dire que c'est un génocide maquillé. Enfin, soyons clairs, si les gens n'ont pas le droit de manger, n'ont pas le droit de boire, et n'ont pas le droit de se mettre à l'abri voilà, que ce soit du soleil ou de la pluie, qu'importe, ça veut dire massacrer les gens, les laisser mourir. Moi, je ne vois pas d'autres alternatives. Donc, de ce point de vue-là, est-ce que vous voyez d'autres... Moi, je ne comprends pas, quoi. Comment ça peut être autrement qu'avoir des dispositifs d'urgence dès aujourd'hui? Est-ce que vous avez des échos sur la façon dont aujourd'hui ça se met en place, ce genre de choses?
Alors, ça, très sincèrement, pour les gens qui ne sont pas de nationalité française, ça ne se met pas en place, puisque les décisions qui ont été prises par le ministre de l'Intérieur et le ministre des Outre-mer, c'est d'empêcher les gens qui ne sont pas français d'accéder à ces besoins essentiels qui sont l'eau et la nourriture. Et tant qu'il y aura des gendarmes, entre guillemets, sur l'île de Mayotte pour empêcher les gens d'accéder à ces besoins vitaux et sous prétexte de les renvoyer aux Comores, quelle que soit leur nationalité. D'ailleurs, on ne leur demande pas s'ils sont malgaches ou s'ils sont ivoiriens ou s'ils sont... On les renvoie tous aux Comores et c'est les Comores qui se débrouillent. Alors, c'est vrai que les Comores se débrouillent parce qu'il y a eu des accords entre la France et les Comores qui permettent ça. Mais ça, c'est inadmissible. On ne peut pas interdire aux gens de se nourrir et de boire. C'est impossible.
Il y a à la fois ça, et puis il y a aussi l'accès à la santé. Parce que tu racontais, Monique, que par exemple, les dispensaires, on a parlé hein, de la santé la dernière fois, mais là, tu me précisais tout à l'heure qu'il y avait les dispensaires où les gens pouvaient se présenter et que les gendarmes patrouillaient autour, contrôlaient les identités, et lorsque c'était des gens sans papier qui venaient pour se faire soigner, ils les embarquaient.
Tout à fait.
Voilà. Donc ça, c'est quand même, enfin, je veux dire, c'est un état colonial manifeste, cette façon de se comporter. Et du coup, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la priorité aujourd'hui, c'est de mettre à l'abri tout le monde, de permettre à tout le monde de manger, de boire, de se soigner de façon immédiate et sans condition.
Complètement. Il n'y a pas d'autre nécessité urgente que de permettre aux gens de survivre et d'interdire toutes les mesures gouvernementales ou de force qui interdire l'interdiction, en fait. Je pense qu'à titre de citoyen, c'est très difficile d'avoir une action là-dessus, puisque le ministère de l'Intérieur et le ministère des Outre-mer sont d'accord pour avoir cette attitude qui est une attitude répressive et qui, comme tu disais, tend vers le génocide, alors que ce sont les Comoriens et les Mahorais, ce sont des gens qui ont les mêmes origines ethniques. On ne peut pas dire que ce soit des étrangers. Ils ont la même couleur de peau, ils ont la même langue, et ce sont des gens qui sont issus de la même filiation, éventuellement un peu lointaine.
Est-ce qu'on peut faire la pause musicale maintenant, Sylvain, s'il te plaît ? Alors maintenant, on va continuer. Alors, si j'ai bien compris, c'est plutôt François. Voilà. Sur les perspectives à moyen et long terme, on a vu les besoins d'urgence. Et on a vu aussi, dans ce qu'on a discuté auparavant, que la situation actuelle s'explique par la façon dont les choses étaient gérées à Mayotte jusqu'à présent. Et il faut donc peut-être profiter de la situation créée par le cyclone pour se reposer les bonnes questions. Donc François, aujourd'hui, pour l'avenir, quels sont les points sur lesquels il te paraît important de réfléchir et de construire différemment à Mayotte ?
Ben, en fait, depuis de nombreuses années, on essaye petit à petit d'appliquer à Mayotte exactement les législations et les normes qui existent en métropole. On pourrait même dire que on a accompagné ça d'un système médiatique qui fait qu'aujourd'hui à Mayotte, la métropole est vue comme un Eldorado, en fait. Et je pense que du fait de la différence de mode de vie, de la différence géographique, etc., c'est pas forcément la meilleure idée, parce que on applique brutalement des systèmes qui finalement on s'aperçoit bien après qu'ils ne correspondent pas forcément. Juste un exemple. En ce qui concerne les bâtiments, depuis quelques années, tout ce qu'on construit, c'est du béton. La première chose que l'on doit faire, c'est installer des systèmes de climatisation, parce que le climat n'est pas du tout le même qu'en métropole, alors qu'il y aurait éventuellement possibilité de construire de façon différente. Mais il faudrait pour ça que ce ne soient pas des architectes qui viennent de métropole et qui réfléchissent comme en métropole. C'est juste un exemple, mais c'est à peu près la même chose dans strictement tous les domaines.
Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, on peut se dire que, enfin, ça fait le département, la population de Mayotte, poussée un peu par la métropole et par nos dirigeants, a décidé, a souhaité rejoindre l'État français, notre pays. Tant mieux, hein, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, ça n'a pas visiblement pas été accompagné de ce travail d'implication et de réflexion qui est nécessaire dans ces cas-là. C'est-à-dire que personne n'a accompagné la population mahoraise à dire ben « voilà comment c'est en France, voilà comment c'est chez vous, réfléchissons ensemble comment nos idéaux et nos lois qui nous sont maintenant communes peuvent s'appliquer dans ce territoire ». C'est simplement des règles qui sont arrivées comme ça sans négociation, quoi, sans discussion.
Mais je pense que ça pas été préparé parce que ça fait très très longtemps que, je dirais, les politiques de Mayotte demandent à être intégrées le plus possible au sein de la France. Par contre, du côté de la France, du côté de Paris, c'était pas forcément une volonté. La demande côté Mayotte, elle est très ancienne et on a plus ou moins freiné des cas de fer.
J'ai appris quand même, je vais relativiser ce que tu es en train de dire, hein. J'ai appris quand même, par toi d'ailleurs, hein, que quand même Mayotte présente un certain intérêt pour l'État français,
oui.
Pour ces zones maritimes, ça c'est un peu la tarte à la crème et c'est valable pour tout le monde,
mais
tu nous as parlé de French Loan.
Oui, mais attends, elle présente les mêmes intérêts qu'elle soit département ou qu'elle ne le soit pas. À partir du moment où c'est français...
À partir du moment où c'est une colonie, oui.
Oui, ça revient strictement au même. Et par contre, alors, on a l'habitude de dire que Mayotte a voulu être française. Moi, je le dirais un peu différemment. Je dirais que Mayotte n'a jamais voulu être française. Elle voulait surtout pas être comorienne. Mm. Et donc, du coup, le fait de demander à être français faisait qu'ils échappaient, en fait, aux Comores.
Certes, mais là, on est sur comment on construit l'avenir et pas, on
oui,
refait
oui,
pas
oui,
l'histoire.
Oui, oui, maintenant, c'est autre chose.
Donc, juste, dites-nous ce que c'est French Loan.
Oui, French Loan s'est installé à Petite Terre et c'est en fait un système d'écoute militaire. Comment dire d'écoute militaire, voilà. Je crois que c'est clair.
oui, mondial.
Oui. Oui, de fait. Alors,
donc, c'est notre système à nous, militaire français. D'écoute mondiale est basée à Mayotte, quand même.
Voilà, et ça s'appelle French Loan, parce que le mot, il vient du célèbre échelon américain, qui est le système d'écoute militaire international des Américains.
Donc, évidemment, on va le donner à personne.
Hein. Bah, ça, c'est clair.
Voilà. Donc, à plus long terme, nous, ce qui nous semblait, en y réfléchissant un peu entre nous, c'est qu'il y a quand même, bon, il y a la question de l'égalité des droits, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, comme en général dans la plupart des départements d'outre-mer, mais c'est encore pire à Mayotte. Il y a encore plus d'écart à Mayotte avec les règles de droit français quand elles s'appliquent pour ce qui est des droits, caisses d'allocation familiale, sécurité sociale, enfin, etc., etc. Mais par ailleurs, les questions qu'on peut se poser pour la suite, un peu comme elles se sont posées d'ailleurs dans les Caraïbes, c'est quelles sont les relations possibles de Mayotte avec son environnement immédiat. Et faire la différence, parce que vous nous l'avez expliqué, c'est pas la même chose à Mayotte. Les gens des Comores qui vivent, qui sont de la même famille que les Mahorais et qui viennent, et qui de tout temps sont venus travailler à Mayotte, des gens repartaient, revenaient, enfin ça a toujours tourné, c'est la même famille, on va dire, et ça faisait partie de la vitalité économique de l'île de Mayotte, ça c'est une chose. Et quand ils nous parlent d'immigration clandestine, c'est vrai qu'il existe aussi des immigrés du Congo, etc., parce qu'il y a la guerre, il y a d'autres États autour qui ne vont pas bien et où les gens partent parce qu'ils sont malheureux, qu'ils sont en détresse. Donc il y a deux situations différentes et le discours de l'État tend à tout mélanger. Et ça serait peut-être bien que nous, on dise, non, attention, il y a deux choses différentes et nous, comme citoyens, on pense qu'il faut faire différemment pour les deux situations.
En plus, en termes de nombre des étrangers qui viennent donc du continent africain, il y en a relativement très peu quand même.
Ça va être temps de passer au dessert. Hein, on va écouter la musique, Sylvain, s'il te plaît. Hey Alors aujourd'hui, on va faire un pilao ou riz au poulet de Mayotte. Donc pour 3 personnes, vous prenez 500 g de riz, 500 g de poulet, une tomate ou coulis de tomate en hiver, une demi-boîte de concentré de tomate, 2 oignons, des épices, du safran, la cannelle, 2 clous de girofle, du sel, du poivre et du citron. La préparation, vous rincez le riz et vous lavez le... Et lavez à l'eau le poulet, épluchez les oignons et les émincez, coupez la tomate, faire revenir les oignons avec les épices, ajoutez le poulet et le coulis, laissez cuire à couvert 20 minutes en tournant le poulet, dans un faitout, faire rissoler le riz avec un peu d'huile pendant 5 minutes. Ajoutez le poulet et sa sauce, vous mélangez avec le riz, couvrez avec de l'eau et vous laissez cuire 40 minutes à feu très doux. Et vous servez avec un filet de citron. Et donc, on va devoir se dire au revoir et dans 2 semaines.
Voilà, dans 15 jours.
Oui, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Liberté, égalité, révolution et république, égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con.